Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdua et c'est l'heure de l'interview avec au studio Nicolas Herringer. Bonjour.
Bonjour.
Nicolas, tu es militant écologiste pour le climat d'ailleurs et tu nous fais part de cette réunion publique qui aura lieu ce jeudi 27 août à 18h dans la salle Séverine Baumier à 10 rue Joseph Reynaud avec un thème « Plus de Canadair, moins de jets privés ». Et il y a cette possibilité de réflexion avec un public. Autour de toi, il y aura d'autres personnalités. Magdalena Heuweiser, qui est cofondatrice du réseau Stay Grounded, qu'on peut traduire par « Rester sur Terre », j'imagine.
Oui, tout à fait, c'est ça.
Ensuite, il y a Wolfgang Kramer, qui est écologue au CNRS et contributeur du GIEC, qui sont les initiales du...
Groupement international d'experts sur le climat, donc c'est le groupe de chercheurs qui fait un peu l'état des lieux de la science sur le climat. On se trompe souvent sur le GIEC, on considère parfois qu'il émet des opinions ou que c'est un laboratoire de recherche qui fait des recherches qui pourraient être contestées par d'autres. Il ne fait pas du tout ça, il fait l'état de l'art. Donc il dit en gros, voilà ce que l'ensemble des recherches dans le monde sur le climat nous disent de l'évolution du climat.
Et puis il y aura aussi Marie Mélinon, pour le réseau des tempêtes, d'ailleurs que je recevrai cette semaine pour nous annoncer une autre date, je crois que c'est celle du 6 septembre.
Je crois que c'est ça, ouais.
Oui, et donc on aura l'occasion d'en parler avec elle, et puis d'autres invités, on le saura sur place. Et
alors
puis...
il manque une invitée d'ailleurs, il y a Sarah Torina qui est une habitante de Barsac, qui a par ailleurs un podcast qui s'appelle En reportage permanent. Et ce podcast a, je crois qu'une partie des émissions, enfin des enregistrements ont été diffusés sur Erdiwa. Elle a fait un gros travail au moment des incendies aussi de collecte de la parole des habitantes et des habitants du Diwa. Et donc elle sera là pour témoigner aussi de ce qui s'est passé à Barsac, puisque c'est l'un des endroits où il y a eu énormément d'auto-organisations citoyennes. Donc elle nous parlera de ça jeudi soir.
Plus de Canadair, moins de jets privés. C'est un titre qui vous a été inspiré par l'actualité, notamment celle de cet été, suite à peut-être ce manque de moyens pour combattre ces incendies. Alors, comment vous est venue l'idée de vous réunir autour de cette thématique entre vous quatre ou vous cinq?
Bah, il y a évidemment quelque chose d'un peu provocateur dans ce titre-là, mais l'idée, c'est bien de dire qu'il y a des avions qu'on veut voir beaucoup plus souvent, beaucoup plus fréquemment dans le ciel. Enfin, on aimerait bien qu'ils ne soient jamais dans le ciel, les Canadair. Ça voudrait dire qu'il n'y ait pas d'incendie, mais on sait qu'il va y en avoir de plus en plus des incendies. Et donc, on a besoin de Canadair. Et il y a d'autres avions qu'on veut voir de moins en moins souvent dans le ciel, ce sont les jets privés. Et au-delà de la provocation, l'idée, c'est de dire que c'est très important, évidemment, de lutter contre les incendies une fois qu'ils se sont déclarés. Et c'est pour ça qu'on a besoin de moyens supplémentaires, de moyens humains, puisque on sait très bien que les SDIS, les services départementaux de pompiers et de secours, ont de moins en moins de moyens et ont de plus en plus de difficultés à remplir leur mission. On a besoin de moyens aériens, et on a vu cruellement cet été combien la France en manquait de Canadair, mais aussi d'hélicoptères, de Dash, etc., mais principalement de Canadair. Donc c'est très important de se donner les moyens de combattre les incendies, mais c'est tout aussi important de se donner les moyens de combattre les causes des incendies. Et parmi les causes des incendies, même un incendie comme celui de Die et de Justin, qui a été provoqué par la foudre, il n'est pas provoqué uniquement par la foudre, il est provoqué aussi par le réchauffement climatique, puisque le réchauffement climatique, le dérèglement climatique provoque plus de sécheresse, c'était le cas cette année. Donc le sol, quand il est frappé par la foudre, est beaucoup plus propice à s'enflammer. Les vents aussi sont plus forts. La pluie vient bien moins souvent et elle a tardé à venir. il a fallu attendre la mi-juillet pour qu'il y ait enfin une pluie qui permette de combattre l'incendie. Et d'ailleurs, si on fait le calcul, si on considère que la pluie qu'il y a eu juste à, c'était quoi, le 11 ou le 12 juillet, cette grosse pluie qui a duré une heure, il est tombé 30 mm à 10, il est tombé 30 mm sur l'ensemble de la surface de l'incendie. C'est l'équivalent de 180 000 largages de canadaires qui sont tombés en une heure. Donc on voit que c'est la pluie qui est la plus importante encore que les canadaires, sauf que la pluie, sur fond de réchauffement climatique, elle est de plus en plus rare. Et puis, il y a même ce truc assez étonnant, mais il y a des recherches par certains climatologues qui montrent que le nombre d'impacts de foudre augmente en raison du réchauffement climatique, que les orages eux-mêmes sont plus forts, plus violents et évidemment moins prévisibles.
Et que les incendies eux-mêmes produisent des orages.
Et que les incendies eux-mêmes produisent des orages. Alors, c'était le cas en Gironde, ça n'a pas été le cas dans le Diois. Et donc, combattre les causes de ces incendies, c'est-à-dire combattre le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, c'est combattre les émissions de gaz à effet de serre. Et parmi les émissions de gaz à effet de serre les moins utiles et les plus injustes, il y a celle de l'aviation en général, et en particulier des jets privés. Et donc l'idée, c'est de dire, on veut moins de jets privés et plus de canadaires. Et si on a moins de jets privés et plus de canadaires, alors on sera d'autant mieux armés pour combattre les incendies à venir.
Au-delà de ce manque d'aéronefs contre les incendies. J'ai eu connaissance de pays qui nous environnent, comme l'Italie ou l'Espagne, qui sont autrement bien plus pourvus en appareils. Je crois que c'est 22 canadaires pour l'Italie, qui est un pays beaucoup plus petit par rapport à chez nous. Ça note évidemment une volonté politique donc, de cet armement aéronautique contre les incendies.
Oui, ça montre qu'effectivement, c'est une question de volonté politique. On sait désormais très bien que les différents gouvernements sous Emmanuel Macron ont baissé les moyens des services de pompiers, qu'il y a des commandes de Canadair qui ont été revues à la baisse. Alors, on sait aussi qu'il y a eu un moment donné où la chaîne de production des Canadair s'est arrêtée. Donc, clairement, on ne peut pas les faire tomber du ciel, même si c'est dans le ciel qu'ils volent. Mais ce que ça montre aussi, c'est un problème d'anticipation. C'est-à-dire que si l'Italie ou l'Espagne sont mieux dotés en Canadair que la France, c'est parce que ce sont des pays qui savent depuis longtemps qu'ils sont vulnérables aux incendies provoqués par la sécheresse, alors que la France pouvait penser, pendant un temps, en dehors du Sud, être plutôt préservé. Et on l'a vu cet été, tragiquement, qu'il y a eu des incendies en Bretagne, il y a eu l'incendie de Fontainebleau, il y a même un incendie ces dernières semaines en Belgique. Donc on voit bien que maintenant, les régions plus au nord de l'Europe ne sont pas plus préservées que les autres, et que ce manque d'anticipation est absolument dramatique, et donc il s'agit de le corriger, effectivement.
Est-ce que vous vous êtes aussi documenté un peu sur les fabricants d'aéronefs en France? Il y a Airbus, bien sûr, pour des vols commerciaux ou de transport. Mais est-ce qu'il existe des petites entreprises, on pensait à la Teco Air dans les années 30, qui a été précurseur. Est-ce qu'il y a eu un héritage de ce type d'entreprise qui pouvait justement, peut-être, à l'image des Canadair, d'être produit?
Alors, l'enjeu du débat, je dirais qu'il est un niveau plus, entre guillemets, politique que cela. Il n'est pas aussi technique. Mais effectivement, il y a la question de savoir comment est-ce qu'on reconstitue ou on crée de toutes pièces des chaînes de production de moyens aériens qui permettent de combattre les incendies. Airbus a ce fameux A430 là, qui permet une configuration pour larguer de l'eau. Mais alors, ce qui est compliqué, c'est qu'il est ravitaillé au sol et que par ailleurs, il a besoin... il largue l'eau en remontant. Donc, ce n'est pas du tout adapté au relief du Diois. Et il a besoin de pistes d'atterrissage et de décollage très, très longues aussi. Donc, ça limite un peu les choses. Il y a la question des hélicoptères. On sait très bien que pour combattre un incendie, il ne faut pas un seul type de moyen aérien. Il en faut plusieurs. Il faut des Canadair, il faut des Dash, il faut des hélicoptères, il faut des Airbus. Et donc, l'idée serait évidemment à terme de reconstituer toute une chaîne de production de ces différents moyens en Europe. Ça n'a aucun sens de le faire en France isolément. Enfin, ça ne serait même pas possible, et quelque part, tant mieux. Mais qu'en Europe, on ait les moyens de le faire, ce serait très bien. Et encore une fois... C'est pas quelque chose en vase clos, c'est-à-dire que Si on interdit les jets privés, ça peut se faire par exemple au moyen d'une taxe qui va désinciter petit à petit les ultra-riches à utiliser leurs jets. Et une partie de cette taxe pourrait servir à financer l'acquisition de matériel qui combat les incendies.
Et par rapport à justement l'aviation, est-ce qu'il y a une volonté derrière cette organisation, donc titrée plus de Canadair, moins de jets privés? Est-ce que vous souhaitez vraiment peut-être développer une certaine autonomie de ce type d'avion pour nous protéger pour la suite ou du moins pour intervenir lors d'incendies?
Je dirais que l'autre objectif de ce débat, c'est on a vu tout au long de l'incendie à quel point la solidarité au niveau local était belle, était forte et a été indispensable pour faire face. Il y a eu plein de formes de solidarité. Il y a eu évidemment ce qui était très visible au gymnase et autour des supermarchés sur les collectes alimentaires, la cuisine, l'accueil des pompiers. Mais il y a eu aussi des formes de collecte et de cuisine moins peut-être visibles parce qu'elles avaient lieu directement sur le front du feu. Donc il y en a eu à Barsac, il y en a eu à Aurel, etc. Il y a eu aussi tout un réseau d'entraide, de soutien psychologique, de praticiens et praticiennes du soin qui se sont mis au service des personnes qui combattaient l'incendie ou des habitants et habitantes qui étaient un peu traumatisés par le feu. Donc ce qu'on veut dire avec cet événement de jeudi soir, c'est très bien et c'est hyper important de mettre en avant les solidarités locales et de réfléchir à ce qu'on en fait aujourd'hui et demain. Donc comment est-ce qu'on s'organise localement pour veiller à ce qu'idéalement il n'y ait pas de feu, puisque enfin, le feu de Romeyer, c'était il y a 4 ans. Donc si on part sur un méga feu dans le Diois tous les 4 ans, ça va vite devenir un paysage ravagé et dans lequel plus personne ne voudra venir passer ses vacances, quoi. Donc il y a quand même un enjeu là-dessus. Donc comment est-ce qu'on s'organise localement pour peser sur les causes des incendies et puis pour savoir s'organiser quand les incendies reviennent. Mais ce qu'on veut aussi dire, c'est que s'organiser au niveau local, ça ne suffit pas, qu'il faut agir sur les causes profondes des incendies. Pour agir sur les causes profondes des incendies, il faut des campagnes et des revendications et des mobilisations à l'échelle nationale, européenne et internationale, et que le réseau Rester sur Terre et ses campagnes qui ciblent l'aviation, à commencer par les jets privés et les vols domestiques, donc vraiment la part de l'aviation qui est la plus inutile et la plus inique, c'est une des manières de répondre aussi à cette envie qu'on a toutes et tous localement de s'organiser pour faire face aux incendies.
Alors, je ne vais peut-être pas m'étendre, mais j'avais envie de mettre un point sur aussi cette capacité de la France à produire des avions, notamment militaires, donc au détriment des populations. Ce qui est déplorable, c'est de ne pas avoir de politique de construction, justement, de ces avions par nos constructeurs, par exemple.
Oui, alors bon, le des Canadair, il est quand même un peu particulier puisqu'il y a un seul fabricant au monde qui fait ce genre d'avion à l'heure actuelle.
Et est-ce qu'il a une sorte de monopole de ce type de
fabrication? Oui, il a un monopole de fait, mais par exemple, il y a d'autres monopoles qu'on peut interroger. Il y a le fameux retardant, là, ce produit orange qui était largué, ou rouge qui était largué par les Dash pour empêcher les flammes d'avancer trop vite. Il est fabriqué par une seule entreprise qui est basée à Montpellier, si je ne dis pas de bêtises. Et évidemment, comme toute entreprise en situation de monopole, d'abord, il y a des difficultés d'approvisionnement parce qu'il faut aller remplir les cuves ou les citernes à Montpellier. Donc, il y a des allers-retours quand même assez importants, conséquents qu'il faut faire quand, en tout cas, le retardant arrive à manquer. Et puis, comme toute entreprise privée en situation de monopole, elle est quand même guidée par la recherche du profit. Donc, on peut aussi se poser la question de savoir s'il n'y a pas un certain nombre d'éléments de lutte contre les incendies qui ne devraient pas échapper à cette logique-là. Alors, est-ce que ça veut dire être nationalisé? Est-ce que ça veut dire un contrôle sur la production? Ça reste ouvert. Mais au-delà de la question de où sont fabriqués les Canadair ou quelle chaîne de production on a pour des moyens aériens, il y a effectivement ce genre de questions qui sont importantes à se poser.
L'utilisation, durant cette année, aussi d'entreprises privées qui proposent des appareils elles-mêmes. Alors, j'ai entendu ça, mais sans trop connaître les sources, est-ce que toi, tu sais?
Non, j'ai pas beaucoup d'éléments là-dessus. Après, je veux dire, on voit bien que la guerre est de plus en plus privatisée au service de milices privées. Donc, ce serait pas surprenant que la lutte contre les incendies soit elle-même privatisée. C'est ça qui est dramatique, c'est que quand l'État se désengage des services publics de protection de ses citoyens et de ses citoyennes, le privé le fait, mais le privé le fait moins bien, parce que le privé ne peut pas avoir pour objectif principal le bien-être ou le soin de la population. Et je crois que ce qu'on a vu cet été, à Die, en Gironde, dans le Var, dans l'Aude, à Fontainebleau, c'est que, et partout en fait, où chacun a subi la canicule, c'est que l'État n'est plus en mesure de nous protéger par manque d'anticipation et par manque de moyens. Et qu'il y a deux réponses face à cela. Il y a d'abord l'auto-organisation, l'organisation citoyenne telle qu'on l'a mise en œuvre partout dans le Diois, et encore plus récemment sur le feu dans le Haut-Diois, sur lequel se sont mobilisées énormément de personnes du Diois et pas simplement du Haut-Diois. Et ensuite, tout simplement de veiller à ce que les politiques d'austérité, les politiques de réduction de la dépense publique soient annulés, qu'on change d'approche et qu'on défende des services publics du soin. C'est assez, en conjuguant ces deux réponses, l'auto-organisation et un État à nouveau investisseur dans les services publics, qu'on parviendra à faire face.
Alors, on va peut-être un peu présenter les intervenants qui seront à tes côtés pour cette soirée du 27 août, à commencer par Magdalena Eivizer, donc cofondatrice du réseau Stay Grounded. Peut-on peut-être présenter cette association ?
Oui, donc c'est le réseau Stay Grounded, donc littéralement rester sur Terre. C'est un réseau international qui s'organise pour, enrayer l'essor du transport aérien. Donc qui essaye au contraire de le réduire et de lutter contre le développement des aéroports et des liaisons aéroportuaires ou des liaisons aériennes. Il se trouve qu'elle passe quelques mois à Die, donc il y a aussi un effet d'opportunité, comme elle était là cet été, qu'elle était un peu sidérée évidemment par les incendies. Elle s'est dit l'une des choses que l'on pourrait faire, c'est avoir cette discussion pour proposer à des Diois et des Diwas de s'engager dans les campagnes du collectif Rester sur Terre. La raison d'être de Stay Grounded, c'est que donc l'aviation, si l'aviation était un État, ses émissions de gaz à effet de serre ou sa contribution, au dérèglement climatique serait équivalente à celle de l'Allemagne. Donc c'est quand même pas négligeable. C'est 6% de la contribution au dérèglement climatique. C'est à la fois des émissions de gaz à effet de serre et puis tous les effets de réchauffement de l'atmosphère induits par le transport aérien. Donc c'est absolument pas négligeable. Or, 1% de la population mondiale est responsable de la moitié de cette contribution. Donc le transport aérien, c'est le mode de transport, on le sait, le plus injuste, le plus inégalitaire qui soit. Et si on prend les jets privés, alors là, les proportions explosent. Et donc, le réseau Stay Grounded, Rester sur Terre, a notamment une campagne pour demander l'interdiction des vols de jets privés, puisque c'est effectivement... On a un rapport au transport qui est toujours un peu ambigu, parce que le transport, c'est la liberté, que le transport aérien a irrigué nos imaginaires, notamment dans les 30 Glorieuses, sur ce que sont les vacances, et que pouvoir partir en vacances loin, c'est un peu le summum de la liberté. Maintenant, nos imaginaires sont même colonisés par ces ultra-riches qui vont dans l'espace. Et donc, dès qu'on touche au transport, on le voit aussi à Die, dès qu'on touche un peu à la voiture, ça hérisse le poil ou ça heurte beaucoup de monde, de personnes qui ont un peu l'impression qu'on va venir rogner leur liberté. Soyez tranquille, si on s'attaque au jet privé, il n'y a personne, je pense, dans le Diwa qui n'a de jet privé. Personne dans le Diwa n'a le moyen de voyager avec un jet privé. Donc, il ne s'agit pas du tout de rogner la liberté de transport des Diwa et des Diwa. Il s'agit de dire, au contraire, on veut quelque chose de plus juste. Et cette justice, elle passe par l'interdiction du mode de transport le plus inégalitaire qui soit, après les vols dans l'espace. Elle commence donc par l'interdiction de ce système de transport très inégalitaire dans le monde.
Il y a des bases d'informations ou de statistiques sur ce sujet ?
Ouais. Donc jeudi, on présentera un peu les principales données. Donc en fait, jeudi soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on aura d'abord un temps pour... discuter un peu de ce que ces incendies nous ont fait quasiment intimement, je dirais. Comment est-ce qu'on s'est organisé localement et comment est-ce que localement on envisage un peu l'après, pour ensuite basculer sur C'est important de s'organiser localement, mais il faut aussi peser sur des équilibres internationaux et donc proposer cette campagne comme un des éléments. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a Wolfgang Kramer, donc contributeur au rapport du GIEC, qui sera présent, qui vit à Die, hein, Wolfgang, mais qui sera là pour nous apporter quelques éléments plus solides ou plus documentés que ce que je viens de faire sur la contribution du transport aérien au dérèglement climatique et sur la manière dont le dérèglement climatique a des effets directs sur les étés, enfin voilà, et le responsable des étés tels que celui qu'on est en train de vivre. Marie Mélinon, elle, du réseau des tempêtes, sera présente pour à la fois témoigner de la manière dont elle a contribué à organiser un peu les différents groupes de solidarité au niveau local, et de ce que le réseau des tempêtes, donc, qui est une initiative lancée par Pablo Servigne, entend faire pour, disons, nous permettre d'être plus résilients face aux incendies à venir. Et puis, comme j'ai dit, Sarah Torigna, qui habite Barsac, viendra nous raconter un peu comment les habitants de Barsac se sont organisés face à l'incendie et ont combattu aux côtés des pompiers le feu.
Il y avait effectivement, proche de ces habitants, les pompiers, les forces d'incendie. Est-ce qu'il y avait une observation de carence au-delà de même des pompiers quant à l'organisation ou même, ne serait-ce que pour l'information qui était assez dramatique pendant cet été? Beaucoup de monde ignorait exactement ce qui se passait avec face... au public, une langue de bois préfectorale, pour ne rien dire, forcément.
Oui, alors il y a plusieurs choses. Premièrement, je crois que on a souffert d'un désengagement de l'État à quelques moments clés de l'incendie, puisque faute de moyens, l'État a dû choisir. Ce qu'on comprend tout à fait, mais enfin, à un moment donné, l'État ne devrait pas avoir à choisir et devrait avoir les moyens de protéger chacune, chacun. Il ne devrait pas se dire « cette zone-là, on peut la sacrifier parce qu'on n'a pas les moyens de... » Voilà. Donc, il y a eu un problème là-dessus. En revanche, au niveau des moyens humains, je crois que toutes les personnes qui étaient dans le Diwa, à ce moment-là, reconnaissent le rôle extraordinaire qu'ont joué les pompiers, les militaires et toutes les personnes de la protection civile qui ont été engagées pour combattre le feu. Mais effectivement, il y a eu des soucis de communication. Au début, la mairie communiquait de manière très claire et très transparente sur l'état du feu. Et puis la préfecture de la Drôme a repris un peu les choses en main et on n'a plus eu d'informations. Et je crois que la préfecture n'a pas réalisé en fait que ça rajoutait du stress, de la tension et disons de la méfiance vis-à-vis de l'État à un moment donné où on a plutôt besoin de confiance en l'État. Et donc ça renforçait le sentiment que l'État ne nous protégeait pas puisqu'on ne nous disait pas tout. Je veux dire, on voyait bien que le feu était hors de contrôle. Ça ne servait à rien de cacher la situation. Le feu était hors de contrôle. Il suffisait de le dire, mais la préfète a refusé de le dire. Et on voit bien l'indifférence sur le feu du Haut-Diwa. La mairie, la ville de Die notamment, a recommencé à communiquer. Ce qui est par ailleurs intéressant, que ce soit la ville de Die qu'il fasse, au nom du Diwa, quoi. Et là, l'information était hyper précise, hyper claire, hyper détaillée. Donc je pense que la préfecture a compris de ses erreurs et a dit à la ville de Die, OK, vous pouvez communiquer plus clairement, plus précisément. Et c'était une communication qui était quand même bien, bien meilleure.
Sur ces incendies, on a parlé de ceux qui se sont déroulés en France, en Espagne également, en Belgique en ce moment. Mais la NASA, par exemple, a un site qui permet, par satellite, de déceler tous les incendies qui se trouvent sur la planète. Et quand j'ai vu justement une image qui représentait les incendies sur la planète, on se rend compte que c'est sur toute la planète qu'ont lieu ces incendies. Donc effectivement, on ne parle plus de réchauffement climatique parce que c'est mal vu, mais je trouve que l'information en France n'est pas très ouverte justement sur ce qui se passe à l'extérieur.
Oui, je suis d'accord. Il y a notamment là actuellement des incendies monstres au Canada. Alors l'image de la NASA, elle est à double tranchant parce qu'elle permet de voir partout où ça brûle effectivement dans le monde. Mais on a l'impression notamment que toute l'Afrique équatoriale est en feu. En fait, ce sont des petits feux contrôlés, c'est de l'agriculture sur brûlis.
De l'éco-buage, hein,
en quelque sorte. Ouais, c'est de l'éco-buage maîtrisé. Donc, cette carte, sans le sous-texte, elle peut donner l'impression que la planète brûle littéralement, quasiment intégralement. Et en fait, c'est pas totalement le cas. Quoi. On, ça veut pas dire parce que en gros, si vous regardez cette carte sur le site de la NASA, toute l'Afrique équatoriale et une partie de l'Amazonie aussi sont rouges vifs. Et en fait, ce sont plein de foyers d'éco-buage qui permettent ensuite de la culture sur brûlis. Donc, c'est voilà, à manipuler avec précaution. Mais on voit bien, oui, on est entré dans l'ère des méga-feux. Enfin, encore une fois, on a eu cet été pour la première fois un pyro-cumulonimbus, donc des incendies qui sont tellement gigantesques qu'ils créent leur propre climat. C'est quand même assez inquiétant et assez fascinant dans le mauvais sens du terme.
Pour cette réunion, vous tenterez de répondre à quelques questions. Le réchauffement climatique donc, est la cause principale des incendies. Qui en est responsable? Qui en subit les conséquences? Et que faire face à cette injustice?
Oui, bah encore une fois, le réchauffement climatique, si on le prend un peu de loin ou sans s'y intéresser de trop près, on peut se dire bah, c'est un peu comme les catastrophes naturelles. Ou, je ne sais pas moi, comme le Covid. C'est des choses qui frappent indifféremment chaque personne. Mais en fait, quand on regarde les choses avec précision, il y a des injustices. Selon que l'on soit riche ou pauvre, selon le quartier dans lequel on va vivre, on va être en meilleure ou en moins bonne santé. On va habiter dans un logement qui est plus ou moins isolé, plus ou moins bien isolé. On va avoir une capacité à résister plus ou moins à la chaleur. Selon que l'on travaille, je ne sais pas moi, dans le milieu du BTP en extérieur ou dans un bureau climatisé, une canicule, on ne la subit pas de la même manière. Et en fait, quand on superpose un peu tout ce qui explique ces facteurs-là sur la santé, la fragilité plus ou moins forte face à la chaleur ou face aux incendies, la capacité, quand il y a eu des feux, à éventuellement partir ailleurs, donc avoir un autre logement ou un réseau qui permet de s'accueillir. Tout ça, c'est informé par des questions qui relèvent de la position sociale, donc de la classe sociale, du genre, de la question raciale. Et donc, il y a des injustices climatiques qui sont très fortes. On parle, dans les pays anglo-saxons, on en parle encore assez peu en France, mais de racisme environnemental. Le racisme environnemental, c'est l'idée que, en fait, selon qu'on soit noir ou blanc, que l'on soit maghrébin ou blanc, etc., on n'est pas confronté de la même manière aux conséquences du dérèglement climatique et on n'en est pas non plus responsable de la même manière. Donc les injustices, elles se jouent à deux niveaux. Elles se jouent dans le fait que les principaux responsables du réchauffement climatique sont les personnes qui sont encore aujourd'hui le plus en mesure d'y échapper et de s'en protéger. Et donc il y a un vrai sujet de justice là autour.
Cet épisode, hein, 2026, on redoute les années à venir également, qui seront peut-être des répétitions ou voire des amplifications de ce problème. Il y a des groupes qui se sont constitués, notamment sur Signal. Hein. On peut en citer un qui s'appelle Entraide Incendie Groupe d'Iwa. Ça sous-entend qu'il y en a d'autres sur d'autres territoires. Et pour vous, c'est un outil aussi pour pouvoir communiquer et peut-être amener une réflexion sur les possibilités qu'ont les habitants du Diwa pour essayer de trouver des solutions, non seulement contre les incendies, mais aussi contre la canicule.
Oui, encore une fois, l'organisation, on l'a vu aussi pendant au début de la pandémie du Covid, les réseaux d'entraide sont extrêmement importants. Alors, il y a les groupes Signal qui pullulent un peu, qui sont un espace extrêmement important. Mais j'ai envie de dire que l'une des choses aussi qui nous a... C'est ce que disait Corinne Morel-Darleux quand on était venu dans cette émission au moment des incendies. L'une des choses qui nous a aussi permis de faire face dans le Diwa à ces incendies de manière aussi solidaire, c'est qu'il y a des cafés partout. C'est que dans tous les villages du Diwa, quasiment, il y a un café, un troquet ou en tout cas une place dans laquelle on se retrouve et des habitants et des habitantes qui se parlent. Et donc, il y a un espace dans lequel on peut s'échanger de l'information en direct. On peut prendre soin d'une personne dont on voit qu'elle est très affectée par les incendies. On peut se dire, mais toi, si tu es évacué, tu peux venir chez moi, etc. Donc, il y a aussi la solidarité dans des espaces concrets, réels du quotidien. Et ensuite, Signal permet de mettre en réseau les personnes au-delà de leur village ou de leur territoire.
Pendant longtemps, justement, dans le Diwa, dans certains villages, il n'y avait aucun café. Certains se sont créés par une politique peut-être d'entraide sociale également. Est-ce que c'est encore le cas où des villages sont démunis de ce lieu où les gens puissent se retrouver?
Bah oui, enfin, on risque d'enfoncer des portes ouvertes. Les lieux de sociabilité, c'est quand même la base pour la solidarité. Donc s'il y a des lieux de sociabilité, c'est plus facile parce qu'on a l'habitude de se croiser. S'il n'y a plus de lieux de sociabilité, ça, c'est effectivement un café. Alors il n'y a pas des cafés partout dans le Diois, mais ça peut être un café, ça peut être une boulangerie, ça peut être un marché, ça peut être même ne serait-ce qu'un événement annuel, mais qui pour être organisé implique des réunions régulières. Si on se croise, plus on se croise, plus on se connaît, plus on est susceptible de se faire confiance dans un moment comme celui-ci. Et je dirais que la confiance, c'est la base de l'entraide. Donc oui, les lieux de sociabilité, c'est hyper important.
Alors, jeudi 27 août à 18h, salle Séverine Baumier a dit, c'est entre le parking de la République et le parking du Mazel. Il y aura donc cette rue Joseph Rino avec cet accueil. Le public, il n'y a pas de limite pour le moment. Est-ce qu'il y a des contacts ou des appels à opérer ou c'est une entrée libre ?
Non, c'est une entrée libre. Et puis, il y aura un moment convivial après dans la cour. On aura notamment il y aura des jus de fruits, etc. Et puis, on pourra déguster les vins de David Botin, qui est un vigneron de Barsac et qui a combattu l'incendie vraiment... j'allais dire au quotidien, mais c'est des journées qui duraient des semaines. Donc, il a passé des heures et 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 des jours et des nuits à combattre l'incendie. Donc, on s'est dit que c'était aussi une belle manière de soutenir les Barsacous, c'était d'avoir les vins de David pour passer un moment convivial à l'issue de cette discussion.
Donc, il sera présent aussi ?
C'est les vendanges, donc je ne pense pas.
Mais ces vins sont là. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a un lieu ou un point de rendez-vous au-delà de cette réunion à laquelle vous vous réunissez peut-être régulièrement ?
Oui. Alors non, nous on ne se réunit pas régulièrement, on s'est réunis pour préparer ce rendez-vous, mais c'est tout. Mais ceci dit, il y a beaucoup de rendez-vous et il y a beaucoup d'espaces de discussion autour des incendies. Il y a tous les mercredis soirs avec parfois plus ou moins de monde, mais à la Comtesse a dit... un rendez-vous vers 20h pour les personnes qui souhaitent et qui sont disponibles pour discuter un peu de l'après. Il y a une réunion, tu le mentionnais tout à l'heure, le 6 septembre organisée par le Réseau des Tempêtes. Le 10 septembre, à la salle polyvalente, Marie Pochon organise une réunion publique avec un autre député, Henrik Davy, qui est spécialiste des forêts, puisque Marie, Henrik et d'autres députés ont déposé une proposition de loi transpartisane sur la prévention des incendies et la défense des forêts. Et puis je pense que ça, c'est que le début d'une longue série en fait d'initiatives. Voilà, donc il va y avoir plein d'espaces, de moments, de temps pour se retrouver et discuter un peu de ce que ces incendies nous ont fait et de ce que l'on fait pour éviter qu'ils nous refassent ce qu'ils nous ont fait.
Et puis c'est encore un peu tôt. Je pense que beaucoup de monde est en état de sidération sur ce qui s'est passé. Donc il faut aussi le temps, la maturation aussi de la réflexion pour pouvoir peut-être lancer des idées ou se lancer sur des nouvelles initiatives.
Oui. Et puis on peut aussi dire que la mairie organise un apéro chanté dimanche soir à je sais plus, c'est 17 ou 18 heures pour remercier l'ensemble des Diois et Diois qui ont contribué à des actions de solidarité au moment des incendies. Donc c'est devant la mairie, dimanche 31.
C'est un lundi, le 31.
Alors, dimanche 30, oui. Donc c'est pas ce dimanche, c'est le dimanche d'avant rentrée scolaire, donc un apéro chanté.
Nicolas Héringer, merci beaucoup d'être venu me parler de cette réunion. Plus de Canadair, moins de jets privés.
À bientôt.
Bonne soirée. Ouais,
bonsoir.
Trains before.
Just checking out. There goes this bat to be a mockery. Exist inside a living drop that goes nowhere to be. If after all this whole year a speck of dust exists, we'll set aside a golden dad twixt friend and who he's kissed.
thought the end was almost near, but they broke him instead, and consequently what he read was never what he said. And don't you never,
said the other enigmatic foe,
lose your cool or after school they'll find me home in bed.
What all you think? You make a thinking, animating move. Confused to use it, quick to break or simple rules to you. Why send a girly in the bed and know her secrets too?
Trippin' clown and be not busy too. If I need a FACD, let him come on through. Keys are not thrust open spores, neither is a broken store. They're clothes that hadn't been worn, feet that hadn't been shorn. There's causes that hadn't been given a principle. Need I say more?
Soft-spoken edge was a close fit, with the warped open cracks so many.
Ships are going down, ships are going down.